La terre, le feu, l'air, l'eau. Seul l'Avatar peut maîtriser les quatre éléments et maintenir l'équilibre du monde.
Le monde est entré dans une nouvelle ère. La convergence harmonique a provoqué un changement énergétique comme la planète n'en avait jamais connu. Et voilà deux semaines que la cité de la République tente de se remettre de la longue bataille que Korra a menée contre Unavatu. Des lianes se sont mises à proliférer de toutes parts, créant des abris naturels où les esprits se sont installés. À quels autres changements notre ville va-t-elle être confrontée?
Je pense qu'il aura fallu le temps de se mettre en place et de savoir quoi faire. Et puis là, tu sens que à partir de la saison 2, ils ont conçu la série sur les trois saisons, quoi, en fait. Saison 2, 3 et 4, parce que ça s'enchaîne beaucoup mieux derrière, puisque donc, tu peux dire, voilà, la saison 2 consacre, c'est la progression de l'Avatar jusqu'à son sommet, la saison 3, je suis la meilleure du monde, mais du coup, elle se fait défoncer la gueule, et La saison 4, c'est la reconstruction pour arriver, c'est un schéma classique, tu apprends, tu deviens super fort, tu te la pètes, mais quelque chose fait que tu es défoncé la gueule, tu tombes au fond du trou, et tu remontes pour être meilleur que ce que t'étais, quoi, en fait.
Oui, bah oui.
Et donc, et tu vois ce schéma en quatre saisons qui se dessine à partir de la saison 2, et donc t'enchaînes sur la saison 3, où tu te dis, finalement, t'as pas de méchant vraiment au début. Tu te dis, oui, bon, mais dès le premier épisode, tu vois, il libère les Zahir et ses deux compagnons, hein, enfin, mais tu les vois pas comme des vrais méchants, en fait.
C'est surtout qu'ils mettent un certain temps, finalement, à s'inquiéter réellement. Tu vois que c'est important, parce que tu vois Zuko s'énerver, tu vois clairement qu'il y a un problème, et puis bon, le fait qu'ils donnent autant de temps à l'évasion de ces personnages, tu sens que ça va avoir une importance quelconque,
quand
quoi.
Tu vois dans les conditions dans lesquelles ils sont enfermés, excuse-moi, c'est ultra cruel, quoi.
Mais voilà.
Élément, l'eau, elle est dans une cage en l'air au-dessus du feu, enfin, tu vois.
Clairement, tu dis qu'il y a quand même une certaine importance derrière ça et que ça va forcément avoir une importance pour le reste de la saison, mais c'est vrai qu'au début on est aussi après ce qui s'est passé dans la saison 2, hein, fait que les laisser les portails ouverts, les conséquences que les esprits sont à nouveau libérés dans notre monde, enfin voilà, donc
et que la nation de l'air revit,
voilà, le fait que il y a à nouveau des maîtres de l'air, quoi, donc
ça apparaît un peu partout et
voilà, donc du coup, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui se passent finalement dans ce début de saison 2 qui disent, attends, les gars qui se font évader, tu sais que ça va avoir une importance, mais c'est vrai que ça t'importe pas trop au départ, quoi.
Voilà, au départ, c'est vraiment la recherche des maîtres de l'air pour reconstruire la nation de l'air autour de Tenzin, avec la recherche. Et puis c'est vrai que tu tombes sur le premier, c'est la petite racaille de rue, quoi.
Caille.
Voilà, non mais c'est vrai que t'as pas de bol et puis personne... T'as les conséquences de la saison 1 avec ce côté égalitariste. Merde, je suis devenu un maître de la maîtrise de l'air. Le nombre de gens qui le refusent, qui le cachent. Et c'est vrai qu'il expliquait que c'est un grand avantage. Ah oui, mais qu'est-ce que je vais gagner? Une super robe et puis tu vas méditer dans un temple de l'air toute ta vie. Non, je ne suis pas un maître de l'air. Au revoir, monsieur.
Je suis fan de ce moment-là, de ces scènes qui suivent où ils essayent chacun de convaincre le maître de l'air de les suivre, tu sais, avec des raisons différentes. Tu fais... Ouais, les gars, c'est pas vendeur, quoi.
Et tu retrouves cette impatience de Korra, quoi. C'est au bout d'un moment, à ma façon, allez hop, elle le prend par le col, tu viens avec moi. Le pauvre.
Non, mais c'est ça,
génial,
tu sais.
Tu vas te faire raser le crâne. Quoi? Justement, tu revois un peu plus tard dans un épisode où il se fait raser le crâne de force et puis justement, ils se font attaquer. C'est là qu'il ressent le truc au travers de son crâne et, mais voilà, c'est des petites touches comiques, tu sais, c'est un peu comme le vendeur de choux, là, Avatar.
Oui, dans Avatar, c'est clair. D'ailleurs, on le revoit lui aussi, hein.
Non, mais voilà, puis, tous ces petits personnages, comme ça, en arrière-plan, qui font que, ça enrichit, ils apportent chacun, finalement, leur petite pierre à l'édifice, quoi, tu vois. Les maîtres de l'air, ils se rasent le crâne, mais c'est pas pour rien, c'est justement pour être plus sensible à l'environnement aérien autour d'eux, quoi.
Oui. Par contre, moi j'adorais la scène où il lui rase le crâne et tout en disant bon, évidemment vous avez le choix, vous n'êtes pas obligé. Puis le gars, hein? Il lui dit qu'il a le choix juste après l'avoir rasé.
Oui, mais après, il s'en rend compte et j'ai trouvé. Puis elle était très sympathique, cette nation de l'air, et justement Kai, sans insister sur lui, tu vois qu'il progresse énormément comme personnage au contact de Jinora.
Oui. Non, franchement, tu vois clairement que c'est un bon personnage, quoi, parce que bon, au départ, c'est un petit voleur, quoi, donc.
Ouais, mais finalement, il essaye de devenir bien pour impressionner Jinora, et puis il prend goût à être bon, en fait.
Oui, et puis bon...
C'est une sorte de leader, quelque part, moral des nouveaux maîtres de l'air.
Et puis bon, faut pas oublier que c'est grâce à son comportement de petit voleur que Mako et Evoline retrouvent leur famille aussi.
Mmh.
Hein, sans lui, ils seraient pas retrouvés dans les bas-fonds de... N'est-ce pas?
Oui, de la Terre,
hein. De la capitale du Royaume de la Terre, ils auraient pas retrouvé leur mamie, quoi, donc.
Oh là là, comment attends. Tu sais trop pas le nom de la capitale de la Terre?
C'est pas Sing Se?
Je crois. Non?
Bon.
Si, c'est pas Sing Se, c'est la capitale que l'oncle Hiro n'a jamais réussi à
avoir, c'est ça, hein.
Voilà.
C'est
pas
Sing Se. Vivi. Mais moi c'est ça aussi que j'ai trouvé bien, parce que tu vois justement tout le côté tout le côté de ces Aang et Zuko, ils ont fait leur truc avec leur style de la République pour que tout le monde soit bien et tout, puis t'arrives donc à Sing Se et tu as tu sais le côté supérieur et le côté inférieur. Mmh. Et là tu fais non mais c'est pas possible que Aang il ait voulu ça en fait.
Oui, que tu vois finalement le royaume de la Terre, même la capitale qui se découpe en trois parties quoi, la classe dirigeante haute qui vit dans le luxe, une classe de privilégiés et les bas-fonds qui sont dans un état déplorable.
C'est ça, et quand tu vois ça, tu fais, mais c'est immonde.
Quand tu regardes le plan général, tu vois que c'est au moins la moitié de la ville, quoi, cette population qui vit dans une pauvreté extrême et qui, au travers de la grand-mère de Mako et Boline, mais on vit dans une pauvreté, mais la reine est grande et géniale et bonne, alors que c'est juste une connasse finie, quoi.
C'est une mégère totale, et tu fais, mais comment c'est possible, quoi? Parce que quand tu te souviens du roi de la Terre dans Avatar, tu fais, mais... Oh, comment ça peut être un de ses descendants? Tu fais, non, c'est horrible.
Rappelle-toi quand même, le roi de la Terre, c'était le jeune complètement déconnecté avec son ours. Hein, là.
Ah oui, c'est vrai.
Il y avait des grands maîtres de la Terre, mais...
c'était qui alors le meilleur pote de Aang? C'était pas lui le roi
de la Terre? Non, c'était le grand maître de la Terre. C'était le maître de la cité de je sais plus, celle qui est sur la colline là en fait.
Ah,
tu sais, où il y a
oui.
Tous les trucs de toboggan en pierre et tout ça.
Tu sais que j'avais complètement oublié le gars avec son ours, moi.
T'inquiète pas, c'est un peu normal.
Ok, non mais ça me rassure. Non, ça me rassure, parce que du coup, je croyais que c'était la fille de l'autre, là. Tu vois, je me disais, comment c'est possible?
C'est justement la fille ou la petite fille de ce personnage-là. Tu peux comprendre aussi qu'elle est complètement déconnectée de la réalité. Lui-même était, à l'époque, déconnecté de la réalité, quoi, donc...
Oui, du coup, oui, ça prend son sens.
Mais c'est vrai que finalement après t'arrives justement t'as même presque pas besoin du méchant Zahir en fait dans la saison là parce que il y a tellement d'intrigues autour de la politique où tu découvres oui que Aang a fait énormément mais il y a encore énormément de chemin à faire pour que t'aies une vie beaucoup plus agréable dans toutes les nations quoi.
C'est ça parce que finalement c'est les premiers finalement il faut attendre quand même la saison 3 pour voir vraiment que ça a pas changé par exemple le problème de la Terre et que le peuple est toujours pas forcément bien traité quoi. Mmh. Donc alors que si tu te souviens bien dans Avatar tu le voyais quand même assez régulièrement vu qu'ils passaient leur temps à aller de ville en ville et tout ça et à voir comment les peuples allaient bien mais vu que c'était la guerre. C'était plus logique aussi le fait que tu sais le peuple allait pas bien à cause des seigneurs du feu et tout qui faisaient des mauvaises choses et tout et là tu découvres que ça fait du coup plus de 70 ans que c'est plus la guerre et que en fait certains ils sont toujours pas dans un meilleur état quoi.
Voilà, le royaume de la Terre reste un royaume qui veut pas finalement être en contact avec les autres. Bon après tu vois que la nation les tribus de l'eau ça reste des peuples isolés sur leur pôle. La nation de l'air n'existe pas, et ceux du feu, c'est Zuko. Donc tu te dis, oui, ils sont quand même, normalement, ils doivent bien s'en sortir, quoi, c'est Zuko.
Oui, voilà. Mais d'ailleurs, on les voit vraiment pas, hein, la nation du feu, elle est totalement absente de Korra, hein, de la série, quoi.
Oui, mais comme tu te dis, c'est Zuko leur chef, tu te dis, tout va bien, quoi, pour eux.
Oui, du coup, oui, tu te dis, forcément, ça va, quoi.
Vu que Aang a construit la cité de la République, et finalement, essayer de faire progresser toute la société, avec Zuko à ses côtés, ça serait quand même con que Zuko n'applique pas les principes-là à sa propre nation, quoi. Donc
oui, c'est pas faux.
Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'insiste pas. Et justement, on insiste sur la nation, sur le royaume de la Terre, parce que ça aura des conséquences dans le livre 4, la saison 4. Mais avant ça, il faut parler de Zahir, où ils ont fait le bon choix de choisir comme comédien Thierry Ragnaud, le père de Luthès Ragnaud. Donc en fait, en version française, c'est le père contre la fille, quoi. entre Cora et Zahir. Ça devait être sympa, les repas de famille. Bon, vous faites quoi? Oh, bah, on vient de passer une journée à se taper sur la gueule.
Arrête, ils ont dû s'éclater, je suis sûr.
Ouais, non, mais, voilà. Enfin, bon, après, ils sont tous les deux adultes, donc je pense qu'ils sont pas dans les petits repas de famille, ils doivent vivre, je suppose, chacun de leur côté, quoi. Mais c'est vrai que, est-ce qu'il a été casté volontairement, parce que, justement, il y avait ce lien entre les, la comédienne qui interprète Cora et donc Zahir, je sais pas, mais enfin, bon, moi, ça me faisait rigoler de voir ça. De... Le mentaliste qui tape sur la gueule à Cora. Mais voilà, c'est vrai, et Zahir, mais c'est un très bon personnage, parce que voilà, en fait, c'est un mec qui est en prison, tu vois, qu'en prison, bah, il s'est développé spirituellement, et qui veut aller plus loin que n'a jamais été un maître. Il n'y a pas vraiment quelque part, il s'en fout du pouvoir, lui.
Mais c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce personnage par rapport finalement au précédent. Bon, il y en avait un, Amon, tu vois, il y avait bon ce côté égalitariste, etc., qui était compréhensible. Bon, une là qu'on n'en parle pas, c'est même pas la peine. Mais lui, il a vraiment ce côté, bah oui, mais en même temps, non, moi je veux rendre le pouvoir au peuple. Voilà, en fait, c'est un côté.
Alors que c'était quand même un criminel, d'après ce qu'on nous a dit, puisqu'on n'a pas eu d'épisode flashback sur l'époque avant qu'il soit emprisonné, quoi. Avec ses compagnons, ça avait l'air quand même d'être des bons connards, hein. Ça avait l'air d'être quand même des super méchants. Et là, bon, bah, tu vois que c'est, je sais pas combien d'années ça doit être dit, mais enfin, bon, ça fait plusieurs décennies où il est enfermé dans sa cellule isolée, sans aucun contact, sans rien. Donc, il a développé tout ce côté-là. Mais après, ce qui me semble bizarre, c'est qu'il obtient la maîtrise de l'air, apparemment, au moment où tout le monde l'obtient, la maîtrrise de l'air.
Bah oui. Il a une
connaissance sur l'historique de la maîtrise de l'air.
En fait, c'est ça moi qui m'a gêné. C'est premièrement, il l'acquiert en même temps que les autres. Par contre, il s'en sort super bien. Il a même pas besoin d'entraînement. En 3 secondes, il maîtrise l'air comme si c'était normal. Voilà. C'est-à-dire qu'il le limite maîtrise je vais y arriver. Il le maîtrise limite mieux que Tenzin, qui lui est maître de l'air depuis toute sa vie. Hein. Enfin, donc moi, voilà, c'est un peu le seul problème que j'ai avec c'est là ils l'ont trop boosté, quoi.
Voilà. Enfin, et puis le mec. Il va au temple de l'air pour rechercher un truc, un écrit d'un ancien maître de l'air qui avait été plus loin que tout le monde, bah, qui avait maîtrisé le vol, quoi, tu vois. Alors que Tenzin lui-même le sait pas, enfin il le sait, mais c'est une histoire qu'on raconte aux enfants, tu vois, c'est jamais arrivé. Mais l'autre, oui, il a aucun lien avec la nation de l'air, et il maîtrise toute l'histoire de la nation de l'air, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un peu forcé, c'est un peu. Mais maintenant, je reviens à me demander, est-ce que presque ça se demandait s'il maîtrisait pas l'air avant et quelque part, et je sais pas.
Mais je me demande si c'était pas un maître de l'air à qui Aang aurait supprimé le pouvoir, en fait, justement à cause de son attitude. Parce que pour moi, c'est pas possible qu'il le maîtrise comme ça en étant un nouveau maître de l'air. Enfin, t'as bien vu comment les autres ils avaient du mal. Donc pour moi, ouais, je pense à ça. Je pense, est-ce que ce serait plutôt un ancien maître de l'air à qui on aurait enlevé sa maîtrise, quoi. Et du coup, ça aurait été, tu vois, c'était plus logique, genre un ancien maître de l'air qui aurait été viré du temple, ou je ne sais quoi. Enfin, voilà. Mais d'un autre côté, oui, du coup, il aurait été viré du temple avant que les autres maîtres de l'air soient tous morts et tout le monde aurait oublié son existence. C'est bizarre, quand même. Bah, tu vois, c'est ça qui est épatant, c'est que Aang était censé être le dernier maître de l'air dans Avatar. C'est ça qui pose problème, en fait. Enfin...
Oui, c'est vrai que c'est pas forcément, maintenant, bon, c'est pas possible non plus qu'on ait peut-être mal compris certaines choses, hein, par rapport à ça, donc, peut-être.
Parce que c'est vrai qu'ils insistent tellement pour dire que Avatar, que Aang est le dernier maître de l'air, et que justement, bah, du coup, le seul maître de l'air, là, qui existe maintenant, c'est Tenzin et ses enfants, puisque justement, c'est la descendance de Aang. Tu te dis, c'est bizarre, quoi, enfin... Ou alors, il faudrait que ce soit un maître de l'air à qui un ancien avatar, c'est-à-dire avant Aang, ait enlevé la maîtrise. Et du coup, il est emprisonné depuis... Mais attends, là, il serait super vieux, quoi.
je jette un coup d'œil en même temps sur le wikia du personnage. Il est né normal. Enfin, il est pas né maître. Donc, il a jamais eu cette maîtrise. Il l'obtient qu'au moment de la convergence harmonique dans la saison 2.
Bah oui, donc en même temps que les autres, en fait. Enfin, oui, donc tu vois, c'est pour moi, il y a un problème. Comment ça se fait qu'il maîtrise aussi bien l'air alors qu'il finalement il.
Après, il faisait partie du Lotus Rouge, ce qui explique peut-être toutes ces connaissances qu'il a sur.
Oui, le côté historique, ça m'a pas trop posé problème. Je me suis dit, ça va quand même être l'air d'un gars qui est cultivé, on va dire, c'est qui aime. Voilà, donc ça. Pour moi, le fait qu'ils s'y connaissent autant sur l'histoire, je pense qu'ils s'y connaissent, ça se trouve autant sur toutes les nations, en fait. Mais Par contre, je te dis, pour moi, c'est le fait qu'il acquiert la maîtrise de l'air et qu'il la maîtrise aussi facilement. Enfin, t'as vu comment il se bat contre Tenzin?
Oui. Après, il est posé dans sa biographie que c'était un maître des arts martiaux. Donc ça aide peut-être aussi, et comme ça semble expliquer qu'au moment de sa... Il a fait un travail vraiment spirituel pendant qu'il était en prison, qui peut peut-être expliquer justement qu'il y a un lien beaucoup plus fort avec la nature des choses.
Oui, vu que Tenzin n'a pas ce lien avec le monde des esprits, peut-être que c'est un plus aussi.
Voilà. Bon, ça peut s'expliquer, mais c'est vrai que, bon, voilà, on est plus dans l'extrapolation du peut-être comme ça. Mais après, ça en fait quand même un personnage formidable, justement, parce qu'il est différent, parce que, bah, il rappelle un peu Amon, quoi. C'est un méchant, voilà, c'était un des assassins du Lotus Rouge. C'était avant qu'il soit emprisonné, c'était peut-être, voilà, pas forcément des méchants, les assassins, si, parce qu'il tue des gens, mais voilà, il n'avait pas d'ambition, il n'a pas de choses comme ça, donc ce qui est toujours plus intéressant qu'avoir comme Unala qu'un méchant. Moi, je veux être méchant parce que je veux que l'avatar sombre règne pendant 1000 ans sur la Terre. Waouh, manichéisme, ne voilà. Là, tu vois, c'est beaucoup plus subtil, et voilà, et ça offre un super combat final qui a ses répercussions sur la saison 4, avec l'empoisonnement de Korra, donc...
Ah oui, non, clairement, non, mais de toute façon, c'est, pour moi, il est vraiment très bon, ce personnage. Ça permet aussi de la faire descendre de son piédestal, clairement, hein.
Voilà, justement.
Elle se croit tellement invincible, en fait, la plupart du temps, genre, non, mais t'inquiète, je m'en occuper, genre, c'est la fête, tout va bien, enfin. Bah, voilà. Non, en même temps, à chaque fois, les autres, ils te disent que, enfin, on a quand même toute la saison, Lynn, d'accord, qui a quand même quitté la police, de la cité, pour la protéger. Parce que madame veut quand même aider les autres à retrouver les maîtres de l'air, alors qu'elle est sûrement en danger, elle en fait qu'à sa tête.
Oui, enfin, elle se fait un petit peu virer de la cité de la République, parce qu'elle a foutu le bordel avec des arbres partout dans la cité de la République qu'elle n'arrive pas à virer.
Aussi, mais t'as quand même la moitié de la saison où t'as la pauvre Lynn qui essaie de dire, bon, attends, on va aller dans un lieu sûr, on va se cacher, machin, et l'autre, c'est dans la saison 3 où elle lui dit à chaque fois, allez, on va aller au temple de l'air ou quelque chose, on va aller dans un coin, te mettre en lieu sûr, et elle fait, non, on s'en fout, on continue à chercher les maîtres de l'air, je peux très bien me protéger toute seule, j'ai pas besoin de vous.
Du coup, la formidable cité du métal, quoi, c'est...
Bah, et tu, non, et puis là, ça, et puis je trouve que tu lui permets d'en découvrir plus sur Lynn aussi, voilà, parce que bon...
La famille de Lynn, de Toph,
Ouais. Le clan du métal, voilà. Et voilà. Puis bon, tu découvres aussi la maîtrise de la lave, dans cette saison. Enfin, il y a plein de nouvelles choses, quoi.
Voilà. Mais justement, c'est vrai que c'est un des points forts, c'est tout le développement autour des Befong, quoi. Que ça soit Lynn, sa sœur, ou sa nièce, justement, parce que sa nièce est une des nouvelles maîtres de l'air. Et voilà, la relation entre les deux sœurs est juste formidable, quoi.
Ah oui, bah quand tu découvres finalement qu'est-ce qui s'est passé entre elles, pourquoi, puis bon, tu découvres que bon, Toph, clairement, c'était pas vraiment une bonne mère. Hein.
Donc, c'est pas qu'elle était une bonne mère, c'est juste qu'elle était pas faite pour être mère, quoi. C'est, enfin, mère, pas mère de la ville, hein, mère d'enfant.
Oui, non, parce ça que va.
Elle est chef de la police, voilà. C'est, ça a toujours été quelqu'un qui a été à part, quoi. Toph.
Toph, ouais.
Donc, forcément, Lynn et Suyin derrière, ont eu un peu plus de mal, quoi. Elle est pas faite pour éduquer ou apprendre aux gens. D'ailleurs, on le voit.
Mais c'était la dernière personne que j'aurais pensé avoir des enfants. En fait.
Regarde la façon dont elle enseigne la maîtrise de la terre à Aang. Elle lui balance des pierres à la gueule, quoi.
Non mais c'est ça. Elle est quand même vachement sèche comme personne, quoi. Enfin...
Ah mais non mais t'as Suko là qui est enterré là, qui a que la tête qui surpasse, il risque de mourir. Ben démerde-toi, Aang, pour le sortir de là. Non mais voilà, elle est très... Donc t'imagines bien que les techniques qu'elle a, avec lesquelles elle a pris la maîtrise de la Terre à Aang, c'est ces techniques parentales, tu peux comprendre que... Surtout qu'après, bon, t'as évidemment l'opposition, quoi, entre classique, entre l'enfant qui est bien gentil, qui suit bien les traces de la mère, et l'autre qui se rebelle, et c'est Suyin qui se rebelle. Donc forcément, voilà. Et Lynn qui lui reproche le boulot de policier pour Toph était tout, quoi, et elle lui reproche le fait qu'elle a couvert sa propre fille et donc a dû démissionner derrière de la police parce qu'elle supportait pas de... Voilà, je sais pas, tout est bien fait dans cette construction à trois entre Toph, Lynn et Suyin.
Ouais, non, franchement, tout est bien fait, tu comprends pourquoi il y a autant d'animosité entre elles, quoi, déjà, donc... Non, franchement, moi j'aime beaucoup les personnages. La famille de Toff, ça, pour le coup, je trouve qu'ils l'ont bien réussi.
Voilà. Et donc, bon, bah, t'arrives à la fin de la saison 3 où elle s'en est pris, mais plein la gueule, hein. Là, quand je disais vraiment la construction où tu la mets au top du top et tu la balances au fond du trou pour qu'elle se reconstruise derrière, mais elle se fait défoncer la gueule par Zahir, mais d'une puissance. C'est-à-dire, il arrive même à un moment, dans ce combat final, t'es presque mal à l'aise, quoi, à un moment, parce qu'il lui en balance tellement dans la gueule, et puis c'est justement grâce au nouveau maître de l'air qu'ils arrivent à en sortir, mais elle s'en sort, bah, elle est quand même en fauteuil roulant, quoi.
Ouais.
Et elle est complètement mentalement détruite.
Non, mais elle est totalement démolie, parce que, bah, d'un, elle a failli mourir, elle s'en sort pas grâce à elle, ça c'est clair, enfin... Voilà, elle a quand même encore du poison en elle, enfin, c'est...
Bah, elle le sait pas, à la base, qu'elle a encore du... Normalement, elle a plus de poison.
Oui,
mais
bon.
Voilà, et ce qui fait que tu démarres la saison 4, où bah, elle essaye de se reconstruire, justement, bah, avec un peu la pression, parce qu'elle est l'avatar, parce qu'elle doit être présente, parce que si, parce que ça, elle décide de partir d'elle-même, de s'éloigner de tout le monde, et justement, elle maîtrise plus, elle a plus une maîtrise complète, elle arrive plus à atteindre l'état d'avatar comme elle le faisait, et voilà, donc j'ai trouvé très bien ce côté recherche... la recherche de soi-même, quoi, de qui on est, qui aboutit à ce qu'elle rencontre Toff.
Oui, non, j'ai trouvé ça bien aussi. Enfin, pour moi, c'était nécessaire pour elle de se retrouver, tout ça. Et malgré tout, je trouve qu'on n'y perd pas, parce que bon, bah, malgré que t'as un bond dans le temps et tout ça de quelques années, je trouve qu'on n'y perd pas, parce que finalement, les autres personnages, ils ont quand même évolué de leur côté. Ça justifie aussi le nouveau méchant. Enfin, donc, je trouve que cette saison, elle est bien gérée aussi.
Oui, parce que bon bah du coup, au nouveau méchant, c'est Kuvira qui est finalement la chef de l'armée qui a remis de l'ordre dans le royaume de la Terre. Mm-hmm. Sauf que s'est rendu compte que bah il fallait un chef et tout, et puis voilà, l'autre crétin qui est sous la garde de Mako.
Bah c'est en même temps
elle est dans la lignée des autres, quoi, et elle comprend.
C'est dans la lignée de la reine de la Terre, et encore au final tu découvres qu'il est pas si mal, quoi.
Ouais, mais c'est parce que finalement il change au contact justement de Mako et des autres. Donc,
oui.
S'il était resté tout seul comme ça, qu'il avait pris le pouvoir en début de saison lors de la cérémonie, comme ça.
Ah, on était foutus, hein.
Voilà, il était dans la même lignée que de sa famille, quoi. C'est vraiment la lignée de sa famille justement, elle fait et c'est là que tu vois la belle allégorie par rapport à aujourd'hui et montée des populismes, parce que Kuvira, elle drague finalement toute la population de la Terre qui est derrière elle, tous les villages qui sont laissés à l'abandon, qui ont rien et qui vivent dans la pauvreté. Et donc justement, elle débarque, elle arrive, elle donne à manger, voilà, elle remet l'ordre en place, les voleurs, vous dégagez. Il y a quand même un côté très, soyons clairs, extrême droite, que ça soit du Trump aux États-Unis ou du Le Pen chez nous, quoi. Voilà, hein, il y a ce côté-là au travers de Kuvira de.
Ah oui, non, c'est clair.
De remettre l'ordre. Bon bah du coup, je pense que c'est plus par rapport aux événements, à la montée en puissance du nazisme en Allemagne, quoi, aussi. Voilà, c'est ça Kuvira. Mais c'est pas une mauvaise personne en soi. Sauf que il faut que quelqu'un prenne le pouvoir pour remettre l'ordre dans le royaume. Sauf que ben voilà, c'est un militaire qui prend le pouvoir.
Le problème, c'est que ça lui monte à la tête, parce qu'en fait, à l'origine, le but c'était de remettre de l'ordre et de reconstruire le royaume de la Terre anéanti après avoir perdu la reine de la Terre, et donc en gros, s'être retrouvé sans gouvernement, sans rien, c'était le chaos. Donc le but c'est de remettre de l'ordre. Elle en vient à se dire, il faut unifier tout le royaume et que tout le monde soit unifié. Et c'est là que ça, en fait, ça lui monte à la tête totale. Elle décide de devenir empereur, quoi.
Mmh. Et tu le vois au travers du village, et c'est bien justement d'avoir mis Boline auprès d'elle, parce que tu vois la différence, mais ce qu'elle fait, c'est bien. Mais c'est vrai que la façon où tu le vois au début de la saison dans un village où elle débarque, et en fait, elle met un ultimatum, vous nous rejoignez ou on vous laisse dans la merde. Et le village se retrouve obligé de rejoindre Kuvira contre son gré.
Ils n'ont pas le choix.
Mais d'un autre côté, ils ont nourriture, vêtements, médicaments. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus elle a de pouvoir, plus elle en veut. Il suffit de voir que quand Varric découvre l'exploitation des racines, ça peut faire une arme. Elle la veut, cette arme. Et elle arrive quand même à un moment où elle veut récupérer la partie de territoire du royaume de la Terre sur lequel est fait la cité de la République, puisqu'apparemment, donc, la cité de la République est sur les quatre nations, c'est le croisement des quatre nations, quoi.
Oui.
Tu vois?
Oui.
Elle veut récupérer cette partie-là parce qu'elle veut unifier tout le royaume de la Terre et couper le royaume de la Terre du reste de la planète, quoi.
Mais oui, non, elle est, mais enfin, on en est quand même au point qu'elle attaque Zhao Fu, quoi. Enfin, donc c'est non, elle a complètement pété les plombs. Elle est devenue dingue. Au départ, ça partait, je pense, d'un très très bon sentiment. Elle voulait aider tout ça, et mais c'est parti trop loin, quoi. Elle.
Ah, parce que c'est vrai que quand tu dis, je me suis fait chier à remettre de l'ordre et tout, et j'ai filé le pouvoir à ce mec-là.
Bah, c'est vrai, oui, t'arrives là, enfin, quand tu vois la, enfin, excuse-moi, mais c'est un abruti, le prince, quoi, et quand tu le vois en particulier, précisément, tu vois son attitude et tout ça, genre, quand tu le vois commencer à vouloir organiser sa cérémonie, moi, je veux ci, ça, ça, tu fais, non, mais c'est pas possible, on va pas
où
laisser
la couronne, la couronne, bah, elle a été volée, oui, mais non, mais ça va pas, et que les conseillers font, oui, mais il y a les boucles du pouvoir.
Oui. Non, mais enfin, tu vois, c'est, voilà, c'est vrai, là, je peux comprendre aussi, c'est vrai que tu dis, attends, hein, je me suis fait chier à remettre de l'ordre, à tout réunifier pour donner ça à cet abruti, là, qui va refaire, et puis, enfin, c'est surtout, tu te dis, attends, il va refaire comme la reine. C'est,
oui, il va
c'est
vivre,
pas, c'est pas une solution.
Il va vivre dans son luxe, dans son palais, complètement déconnecté du reste de la population, et finalement, bah oui, bah, c'est le statu quo, quoi, et je peux comprendre que, bah, t'as pas envie de le donner à elle. À lui, et elle se dit, mais si c'est pas lui, ça sera un autre, ça sera pareil, il y a que moi qui peux maintenir l'ordre comme je l'ai fait, et c'est à partir de ce moment-là, oui, elle pète les pouvoirs, et notamment, bah, côté politique, derrière la Cité de la République, qui est un peu comme les Nations Unies aujourd'hui, c'est oui. Une gentille institution, mais elle a pas de pouvoir, et que s'il y en a un qui décide de péter un plomb, ben, bah, elle peut rien faire, on voit bien aujourd'hui avec la Corée du Nord, hein.
Oui, non, mais c'est ça, et là, c'est un vrai problème à ce niveau-là, parce que tu réalises que, bah, qu'elle pète totalement un plomb. Tu peux comprendre qu'elle veuille pas du prince comme roi et tout ça, mais, enfin, elle en est au point où elle pense que dominer, c'est une meilleure solution.
Et surtout que c'est le moment ou jamais, puisqu'il y a pas d'avatar. Puisque Korra est complètement out, donc elle sait que c'est le moment ou jamais. Parce qu'après, t'auras l'avatar qui se dressera, et c'est vrai que l'avatar qui n'a pas encore récupéré à ce moment-là se dresse contre elle, se prend encore une fois une pâtée. Donc, et ce qui réaffirme sa puissance par rapport à ses troupes et son peuple, bah oui, attends, elle est capable de tenir tête à l'avatar et tout, donc plus rien ne menacera le royaume de la Terre, ce qui renforce son pouvoir et ce qui oblige donc Korra à aller plus loin dans sa quête intérieure, spiritualité. Et puis j'aime bien quand elle découvre Toph et Kitoph est fait, mais c'est des abrutis et personne n'a vu que ça avait encore du métal dans le corps.
Oui, moi c'est
devenu. Non, mais ça montre à quel point Toph est la meilleure maître de tous les temps, en meilleure
maître
de la
Terre. Mais c'est elle, en même temps, c'est là, c'est moi, c'est ce que je me dis, enfin, c'est elle qui leur a appris à tous à maîtriser le métal. C'est la première qui maîtrise le métal pour commencer. Donc, arrivé là, enfin, tu sais, quand tu les vois tous avoir du mal avec je sais plus quoi, enfin, tu fais, ouais, c'est bon, appelez Toph en 3 secondes, elle vous les démolit, quoi.
Voilà.
Et c'est pas faux, quand elle arrive pour sauver ses filles après que, enfin, tu sais, qu'ils ont emprisonné toute sa famille et tout, et qu'elle débarque, en 3 secondes, elle te les rétame tous, quoi. Tu fais, attends.
Et elle a
80 balais, quoi. Attends. Et en 3 secondes, elle te fait chtich, chtich, chtich. Bon, on y va? Ok.
Mais voilà, et après c'est le personnage qui est ça, c'est, j'adore, c'est quand Boline lui demande, bah, racontez les aventures avec l'avatar, tu vois. Bah, je l'ai suivi, on a gagné, voilà.
Et puis j'ai adoré quand ils disent, vous venez pas au combat, enfin non mais attendez, est-ce que vous demandez à Katara avec ses vieux yeux de participer?
Non mais voilà, c'est tout off, quoi, c'est toujours la même finalement, et mais quand même quand tu vois quand elle est avec sa famille, quoi, qu'elle a quand même un peu, elle a quand même évolué, quoi, mais au fond ça reste toujours la même, mais c'est vrai que voilà, c'est génial. Bon, bah ça y est, c'est bon, vous êtes libérés, vous pouvez vous démerder, je me casse, hein, je retourne dans mon marais.
C'est ça, c'est bon, un petit câlin quand même, on se réconcilie vite fait, et puis
oui, mais finalement t'as toute une famille, toute la famille Befong à la fin de la saison 4 s'est réconciliée, quoi, et tout le monde s'est retrouvé et accepte de se reparler, donc t'imagines qu'il y aura sûrement des dîners de famille, quoi. Pas dit que Toph se déplace, hein, mais.
Mais oui, mais
au moins,
du coup,
elle sera invitée.
Non, et puis rien que pour la rencontre entre Toph et Boline, ça valait le coup.
Mais voilà, globalement, c'est. Bon, après, ce que je regretterais, c'est que ça va un peu loin, quoi, au final, avec le robot géant.
Oui, bon, ils sont un peu too much. Bon. Mais d'un côté, c'était une bonne idée, hein. Parce que bon, ils étaient tous en train de déplan, ouais, on va là pour le démolir et tout, mais de toute façon, ils sont obligés de passer par là, hein, avec pour ramener leur arme. Et puis là,
explose, ça crée carrément un troisième portail, quoi, le truc qui semblait impossible et improbable. C'est-à-dire que l'équilibre, finalement, à la fin de la saison 4, l'équilibre est complètement rompu. Puisque c'est tout fonctionnel pour terminer le truc dans une série jeunesse, encore une fois. Et quand tu lis l'interview derrière du créateur, justement, il disait qu'à la première scène, elle devait terminer en s'embrassant. c'est Nickelodeon qui a fait vous êtes gentil mais c'est quand même limite là et enfin, les mecs ils sont Nickelodeon est quand même intervenu pour dire non vous pouvez pas aller aussi loin. Donc ils disent ils auraient écrit plusieurs fois le storyboard pour terminer sur le fait que bah justement de se mettre exactement dans la même position que Varick et Julie pour faire comprendre aux téléspectateurs que oui, c'était un couple maintenant.
Oui, bah oui, mais après moi comme je te dis pour moi toute la saison mais enfin moi ça m'a gêné un peu parce que dans les trois premières saisons, t'avais rien qui pouvait te faire éventuellement penser ça et dans la saison 4, t'as tout qui te fait penser ça. Donc
justement non. Justement non parce que finalement comme moi je l'ai revu en sachant ça en saison 1 notamment quand il y a au début je suis avec Mako, je suis pas avec Mako, tu sais le couple qui se la façon dont réagit à plusieurs reprises Sasami, tu fais elle est jalouse en fait. Et pas jalouse parce que Mako va avec une autre, tu te dis ça peut être de la jalousie parce que Korra va avec quelqu'un d'autre. Elle est jalouse que Mako soit avec Korra, ça peut être tourné dans l'autre sens aussi. Hein. Donc c'est vrai que c'est bien joué, mais après moi j'ai pas trouvé la
course. En 4, ça m'a posé le même problème que Max a eu dans Teen Wolf avec Scott et Malia. J'ai trouvé ça trop précipité, trop d'un coup, trop forcé. J'ai pas du tout aimé, vraiment pas.
Bah, moi,
du coup, à la fin, j'ai pas adhéré. Après, moi, j'étais vachement Koramako aussi, hein, donc. Voilà.
Je trouvais que c'était un coup tellement évident. Enfin, je sais pas, ça me semblait pas aller ensemble, quoi. Enfin, Kora et Mako, non. Enfin, c'est des potes, quoi. Enfin, j'étais presque plus gêné dans les périodes où ils étaient ensemble que quand ils étaient pas ensemble. C'est parce que je les voyais pas comme un couple, en fait. Donc. Voilà, après le problème c'est que c'est vrai que c'est pas forcément en saison 3, il y a pas de construction de Korra Sami justement parce que bah t'as pas le temps en fait, il y a tellement de choses dans la saison 3 tout autour du royaume de la Terre que bah entre toutes les intrigues qu'il y a, t'as pas forcément le temps de développer à ce moment-là Korra Sami.
Ouais,
c'est peut-être pour ça, mais après bon, j'ai presque l'impression que c'est un passage obligé de la dernière saison, hein. On se souvient de la façon dont Zuko rejoint la team Aang.
Oui, en 3 secondes, 3 mouvements, c'était fait. Voilà, ça, papa. Hein
c'est le couple Korra Asami qui fait que c'est la particularité des dernières saisons des séries Avatar, on va dire.
Non, mais c'est parce que voilà, dans tout le truc, tu vois, j'ai commencé à me dire, mais attends, qu'est-ce qu'ils me font là? Ils sont en train de ils vont nous les mettre ensemble ou quoi? Et puis
j'ai trouvé beaucoup plus choquant le couple Julie Varick personnellement.
Ah non, ça c'était une évidence dès le départ. Attends, une femme ne peut pas faire n'importe quoi pour un homme qui est aussi abruti sans être amoureuse de lui. C'est pas possible. C'était évident.
Ouais, mais je sais pas.
C'était une évidence totale, quoi. Attends, je sais, elle est forcément amoureuse pour accepter qu'il la traite comme ça.
Bah c'est justement, le problème, quoi. C'est que finalement, quand il la demande, elle accepte, quoi. Alors qu'il t'a traité comme de la merde pendant 3 saisons.
Ah non, attends. Juste avant, elle lui a quand même gueulé dessus en disant, je te préviens, si tu fais encore ton atout comme ton assistant, je m'en vais. Donc bon.
Oui, mais tu vois. Enfin voilà. Après, tu vois pas l'équilibrage du couple. Donc c'est ça un peu, c'est que tu le vois pas. C'est qu'après, finalement, quasiment leur scène suivante, c'est on se marie, hein, donc.
Bah, l'équilibrage, c'est que de toute façon, c'est elle la meilleure et que lui, il fait que avoir besoin d'elle, en fait. Soyons honnêtes.
Et voilà. Après, justement, on l'a encore jamais évoqué. C'est Varick. Ça reste un personnage très intéressant. Voilà, c'est le profiteur qui va du côté du vent, hein, finalement.
Ah, mais lui, il va juste là où, voilà, où, là où ce sera le mieux pour son argent, hein. Soyons honnêtes. Et quitte à trahir n'importe qui, il s'en fout, en fait, hein. Ça, c'est...
Non, mais ça rend le personnage, voilà, en plus, il est traité un peu sur le ton humoristique, mais bien comme il faut, donc, ce qui le rend pas lourd non plus, Mais c'est vrai qu'en saison 2, quand t'as ce plan où tu découvres que Varick a quelque part trahi et qu'il fait partie des méchants, quoi, c'est qu'elle ouvre la porte et puis elle découvre Varick qui a signé le contrat avec Asami et se retourne avec son sourire. Tu dis mon Dieu, c'est un méchant.
Mais ça, je l'avais trop compris en fait. Enfin, j'arrivais, je fais mais c'est bien sûr en fait. C'est évident.
Oui, mais...
Et depuis le début, je fais mais arrêtez de lui faire confiance, il vous manipule, quoi. Voilà, ça se voit qu'il vous manipule. En fait, moi, j'avais pas envie pour Bolin surtout, parce que je me dis mais les pauvres, quoi, il est tellement heureux.
Ah oui, non mais voilà. Et après,
Mais moi, je dis ouais, ça se voit trop sur sa tête en fait qu'il les manipule. Et que le pauvre Mako, c'est le seul à y voir clair.
Après, j'ai envie de dire, voilà, il n'y a pas vraiment de personnage faible dans toute la série, quoi. À part peut-être Ikki. Voilà, la fille qui a juste son instant de gloire quand ils partent les trois enfants de Tamsin partent à la recherche de Korra. C'est grâce à elle qu'ils retrouvent Korra quand même.
Oui, mais bon,
c'est un peu comme sa mère.
C'est juste parce qu'elle a su discuter avec les autres, quoi.
Mais elle a quand même droit à un minimum d'instant de, mais c'est vrai que ça reste très limité. Et c'est comme Kia, elle est un peu le médiateur entre Tenzin et Bumi, mais elle a pas d'intrigue à elle, quoi. C'est ça, c'est...
Non, elle fait qu'exister en fait.
C'est comme Pema, la femme de Tenzin aussi, c'est pareil. Oui, c'est.
Arrête, elle aide vachement à la fin là, quand elle doit aider les humains à évacuer là.
Oui, mais voilà, c'est un peu comme Ikki, elle a droit à son petit instant quand même de gloire, mais.
Oui, sinon c'est juste la femme de Tenzin.
Voilà,
quoi, hein. Alors, en même temps, elle se rappelle quand même qu'elle a 4 enfants.
C'est vrai, voilà. Son instant de gloire, c'est qu'elle a en pleine crise.
Non mais puis il faut les gérer, t'as vu les mômes? Attends.
Bah non, tu les gères parfaitement à part.
Non mais attends, mais Milo, t'as envie de te tirer une balle, t'as un gamin pareil, mais quelle horreur quoi.
Non mais les deux premières filles, ça va, tu peux les laisser toutes seules, il y a pas de problème.
Oui.
Non mais c'est vrai.
Il y en a une, elle va au royaume des esprits, tu sais, tranquille.
C'est vrai qu'il y a il y a énormément de personnages secondaires, c'est un peu comme comment elle s'appelle là, le général de l'armée Sato là, comme qui est comme son grand, qui a été nommé comme son grand-père. Tu le vois à la fin de la saison 1, tu sais qu'il vient pour la bataille, tu te dis c'est un personnage qui va être important, puis finalement non. Et donc il y a énormément de personnages secondaires. Tu pouvais du coup pas... Non, pas Sato, c'était Hiro.
Ah Hiro. Oui, Hiro.
Bah, le petit-fils de Zuko, quoi, voilà. Pourquoi je l'appelais Sato? Bah oui, à cause de la Sami Sato. Non mais voilà, je veux dire, il y a énormément de personnages secondaires, tu peux pas leur donner tous non plus une grosse intrigue, quoi, c'est pas possible.
Non, mais du coup, enfin, quand tu vois le nombre de personnages, tu te dis, mais ils pourraient largement faire une autre série encore, quoi. Enfin, ils ont de quoi faire, en fait. Hein.
Oui, mais comment? Parce que finalement, pour moi, la série Avatar en elle, la série Korra en elle-même, elle est bouclée. Ça y est, hein. C'est un peu comme Aang, il termine la série Avatar. Ça y est, c'est un Avatar accompli. D'ailleurs, de ce qu'on a au travers des évocations et des flashbacks sur son œuvre. Voilà, une fois qu'on est arrivé au bout de la saison 3, donc de Avatar, le dernier maître de l'air, le personnage n'a plus évolué en soi, quoi. Il est devenu l'Avatar, il a fait sa gestion d'Avatar, quoi. Là, okay, tu dis Korra, au point où elle en est maintenant, elle va faire sa gestion d'Avatar.
Mais moi, j'ai juste une question. On sait toujours pas ce qu'est devenu la mère de Zuko dans l'histoire. Non, mais j'ai un peu l'impression qu'on se fout de ma gueule, en fait.
Si, je crois que ça doit être pareil, ça doit être traité dans les comics qu'il y a après Avatar, il me semble. Il me semble qu'il y a aussi une série de comics où c'est beaucoup plus évoqué. Justement, la question de la mère.
Non, mais une petite phrase dans Korra, tu vois, juste une petite phrase et tout. En fait, sinon, t'as retrouvé ta mère, je me souviens de cette histoire, non?
Oui, j'aurais bien vu Korra se pointer face à Zuko et dire je me souviens de cette histoire.
Non mais Bolin, tu vois, genre il est tellement fan des histoires de l'Avatar, tu aurais pu lire. En fait, j'ai lu qu'en fait tu cherchais ta mère, machin. Alors, tu vois, non quoi. J'ai dégoûté à la fin. Je toujours pas ce qu'elle est devenue sa mère. Bah ouais, attends.
C'est vraiment là, je crois, pas la seule, mais une des rares à se poser la question.
Non, je suis sûre que les fans de Zuko se demandent tous ce qu'est devenue sa mère. Attends, c'était important quand même.
Oui, donc c'est le troisième tome, c'est dans le deuxième tome des comics de Avatar que tu découvres le tome intitulé La Recherche, qui revient sur la mère de Zuko et Azula.
Bon bah vas-y, vas-y. Bah,
je sais pas, j'ai pas lu. C'est Wikipédia qui me dit dernière revient sur la nanana, dont on découvre le passé et l'origine de sa disparition. Voilà. Donc. Il y en a apparemment, il y aurait 5 tomes en tout sur les comics qui sont jamais sortis en France officiellement.
Donc en plus tu me sors que c'est dans un comics qui est jamais sorti chez nous.
Bah oui, mais bon, c'est comme les comics de Korra, hein. Je doute très 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 fortement. Déjà si on arrivait à voir les saisons 2 à 4 en DVD, ça serait déjà énorme. Mais
maintenant que ça a été diffusé en France, c'est possible.
Oui. Mais est-ce que ça va être effectivement sorti?
Ça reste à voir.
Bah, personnellement, je m'en fous. J'ai les DVD américains, mais c'est vrai qu'il n'y a pas la version française dessus, quoi.
Ah ouais, mais non, elle est bien la version française.
Et il y a même pas les sous-titres, il me semble, donc.
Oui, non, là c'est vraiment triste quand même.
Bon, après l'avantage c'est que c'est des DVD multi-zone, donc vous pouvez les acheter sans problème, hein. Ça passera sur votre lecteur DVD.
Non, mais il y a quelqu'un qui a sorti de la saison 1, donc pourquoi il sortirait pas la 2, 3, 4?
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Et là, je repense à toi quand tu parlais des DVD de Teen Wolf en disant ils sortiront jamais, et 2 mois après, ils les étaient annoncés.
Oui, non, mais je précise quand même qu'on les attendait depuis 6 ans, hein. Donc, bon. J'ai eu raison de m'inquiéter.
Bah oui, c'était vraiment bizarre qu'une telle série ne sorte pas en DVD en France. Et voilà, après t'as eu les 3 saisons de Avatar, ça serait quand même bien d'avoir au minimum en DVD les 3 saisons de Korra, quoi.
D'ailleurs, question con, mais je me demande si à l'éditeur de Teen Wolf, on pourrait pas leur proposer des séries à sortir. Genre, vous savez, ça fait des années qu'on attend ça, non je...
Mais ouais, donc voilà, bah t'as l'intégrale des 4 saisons en DVD venue d'Angleterre pour 18,20€ sur Amazon.fr. Donc, bah,
oh,
là,
oui,
j'ai
ça
envie
va.
De dire, vous privez pas, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut maîtriser l'anglais, hein, parce qu'il y a pas de français, il y a pas de sous-titres français, hein, dessus. Donc, c'est un petit peu le problème.
Bah ouais.
Mais bon, après t'as droit à tous les bonus que t'avais pas de bonus, hein, non plus sur la saison 1 en DVD français, hein, parce que c'était TF1 Vidéo qui l'avait sorti. Mais bon, voilà. Puis même, vu la qualité de la série, techniquement, on peut sortir, sans problème là, en Blu-ray, hein, tant qu'à faire. Mais maintenant, j'espère juste, c'est que bah, ils arriveront à produire une 3e série dans cet univers, quoi. Je veux dire, Avatar est parfaite, Korra est parfaite, ah, parfaite. 90% parfaite, hein, les 2 séries. Il y a quand même des petits points noirs, comme on dit, début de la saison 2 qui est un peu poussif, certains personnages dont on aurait aimé un peu plus de développement, mais voilà, après, j'ai presque préféré, j'ai envie de dire, Korra à Avatar. Ça, elle me semble mieux maîtrisée encore que Avatar. Donc,
Je sais pas, moi, là, c'est vrai que je saurais même pas te dire, en fait, laquelle j'ai préférée. J'ai aimé autant l'un que l'autre. J'aime autant les personnages des 2 séries, en fait, donc... Après, j'ai quand même trouvé beaucoup de similitudes dans certains personnages qui étaient dans Avatar, donc...
Oui, c'est vrai que tu retrouves cette équipe...
Boline, c'est quand même vachement Sokka, hein, voilà. Donc bon...
Voilà, puis bon, après, t'as aussi les 2 animaux fétiches qui... Ben voilà, qui se correspondent aussi...
Ouais, mais ceux d'Avatar, part, t'aimais, quoi, quand même.
Hein. Quelque part, t'aimais ça quand même. Donc c'est pas gênant d'avoir Bolin qui ressemble à...
Bah non, parce que du coup tu aimes beaucoup Bolin quand même, tu vois, c'est ça, en fait finalement ça aurait été difficile de pas aimer les personnages de Korra vu qu'ils ressemblent quand même pas mal aux personnages d'Avatar, donc...
Donc voilà.
Enfin, bah non, mais voilà, pour moi je peux pas dire que j'en ai préféré l'une à l'autre, quoi.
Et après, ben voilà, tu te dis, pourquoi on produit plus de séries jeunesse de ce niveau-là, quoi. Maintenant, c'est du pipi caca, humour à fond la caisse, TNT Tango, quoi. C'est-à-dire,
ouais.
Les enfants sont pas stupides. Il faut arrêter de les prendre pour des enfants stupides qui peuvent rien comprendre. Je veux dire, Avatar a été un carton. Korra a été un carton quand elle était programmée correctement. C'est-à-dire qu'il y a du public pour ça. Bah, t'avais bien vu Young Justice aussi. Tu prenais pas pour des imbéciles, quoi. Donc, voilà, non, on fait des trucs complètement abrutissants, Ultimate Spider-Man, des séries comme ça, non, produisez des séries comme Korra, quoi. Enfin, je veux dire, les auteurs de talent aux États-Unis, il y en a, hein. Heureusement, j'ai DuckTales maintenant pour compenser, mais voilà, des auteurs de talent qui savent écrire des séries qui prennent pas les enfants pour des abrutis sans non plus être trop compliqués, et qui peuvent donc faire plaire aussi aux parents, parce que je veux dire, là, tu peux regarder Korra, aussi bien un enfant de 10 ans peut regarder Korra,
ah oui,
que ses parents de 30 ou 35 ans. Hein.
Mais du coup, moi, j'ai encore de l'espoir, hein, avec la Young Justice qui revient bientôt. Donc.
Oui, en espérant que ça soit pas les aventures de la Young Justice entre 2 missions. Young Justice Go.
Oui, ce serait très cool.
Non, mais apparemment, non. Des premiers retours, non, c'est pas ça qui est prévu. Mais voilà, arrêtez de faire reproduire des séries... de cette qualité, s'il vous plaît. Voilà. Et produisez une 3e série dans l'univers d'Avatar. Tant qu'à faire.
Bah ouais, pourquoi pas. Franchement, comme ça. Oh, ouais, alors
tu regarderas l'été prochain si t'as pas une troisième série dans l'histoire.
Non mais c'est ça. Hein, va falloir me trouver une nouvelle série pour l'été prochain. Hein. Parce que sinon ça va pas le faire. Hein.
Et puis ça cartonne, hein, sinon France 4 la diffuserait pas en boucle. Hein,
non mais tu te rends compte, ça veut dire que je vais devoir reprendre Dragon Ball Super, quoi.
Oh là là. Non, je vais te mettre à la bande à Picsou 2017, moi.
Pourquoi pas?
Mais non, mais franchement, bah là, j'en suis au sixième épisode, bah c'est six épisodes parfaits, quoi, donc...
Mais c'est du 20 minutes aussi, ouais. Non? J'ai tellement pas de place.
Oui, mais pour l'été prochain.
Ah oui, pour l'été prochain, ouais, mais c'est dispo en VF?
Bah non, pas encore, mais c'est pour janvier 2018, je crois, hein, donc...
Ah, bon oui, donc pour l'été prochain, c'est faisable.
Voilà. Mais bon, en attendant, bah j'allais pas te dire, n'hésite pas à aller revoir Cora, parce que t'as pas de place, mais... Et voilà, même moi l'ayant revu en plusieurs fois, enfin voilà, je m'en lasse pas, quoi. Et à chaque fois, à chaque visionnage, on peut découvrir des autres trucs. Comme je te dis, si par miracle tu revois la saison, regarde le comportement d'Asami au début dans la saison 1 et 2, tu te rendras compte qu'il y a déjà des pistes, qu'elle a des sentiments pour Cora, donc et qui vont au-delà de la simple amitié, on va dire. Ouais, tu peux interpréter beaucoup de scènes comme ça, t'inquiète pas. Et donc merci de nous avoir écoutés. Donc on va vous laisser aller revoir tout Cora. 52 fois 20 minutes, ça va, quoi, c'est pas du monde.
Oui, ça va.
Et tant qu'à faire, revoyez aussi les 65 épisodes de Avatar, non? Ça doit être ça, 65.
Sûrement.
Oui, il y en a un chouïa plus, donc il y a que 3 saisons, mais comme c'est des saisons de 20.
61 apparemment.
Voilà, oui, bah oui, 3 fois 20, enfin, 21 pour la saison 3, oui, donc 61. Voilà. Donc,
voilà.
Donc ça fait 113 épisodes en tout, hein, pour l'univers.
Oui, ça va, hein.
Et puis, allez, après, derrière, vous allez lire les comics. Ça, vous savez ce qu'est devenu la mère de Zuko. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite, hein, pour un autre mini-pod, et puis toutes les semaines, hein, pour le série-pod, voilà.
Voilà, à bientôt.
À bientôt, tchou tchou.